Radio G 101.5 FM.
Capital, c'est palpitant. Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Rendez vite! Venez par chez toi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Nous sommes lundi, il est 19h et quelques secondes. Et comme tous les lundis, de 19h à 20h, c'est l'heure d'injecter dans vos cerveaux, par la grande magie des ondes radiophoniques, les plus beaux mangas, comics et bandes dessinées franco-belges, et même ailleurs. Hein. Tous les arts graphiques, en fait, sont les bienvenus dans votre cerveau. Ce soir, en plus, c'est en petit comité que nous allons nous installer sur votre canapé, votre banquette, si vous êtes dans votre voiture. Et puis, voilà. Je suis tout seul avec mon cher ami Anthony. Ça va, Anthony ?
Ça va très bien, oui.
Et je suis également avec ma petite pitchounette Garance. Tu veux dire bonjour, Garance ? Non, elle fait ça timide. Mais si on arrive à la motiver, elle nous parlera d'une BD tout à l'heure qui lui a beaucoup plu. Ah, enfin, ça fait plaisir de vous retrouver tout ça.
Oui, en plus dans une ambiance très intimiste, c'est sympathique.
Ben oui, c'est encore mieux quand tu parles bien dans ton micro.
C'est mieux comme ça.
Ouais, on t'entend mieux, les gens profitent mieux de ta voix suave et sensuelle. Allez, on commence tout de suite avec un petit peu de news. Alors, j'ai pas grand chose en news, mais on va essayer d'en découvrir quelques-unes ensemble. C'est parti. Tiens, on va le faire en version question-réponse. Je te pose des questions, puis tu vois si tu es capable de deviner de quoi je parle.
Ok, très bien, on fait comme ça. Okay. Alors, c'est le générique des news.
Oui, c'est le générique des news.
Un bon point.
C'est trop fort.
Ouais.
Allez, on va commencer avec une news que je sais pas où je l'ai mise. On va parler manga et horlogerie suisse. Non, ça, tu vois pas de quoi je parle.
Ah, pourtant, j'étais à ma librairie l'autre jour, donc j'avoue, je suis complètement passé à côté alors.
Alors, c'est un partenariat que les éditions Kana viennent de nous annoncer. Alors, par exemple, est-ce que tu peux plus deviner ? Imagine un manga publié chez Kana.
Bon, c'est un shonen.
Alors, ouais.
Ça parle d'Alice au Pays des Merveilles ?
Pas du tout.
Non, je vois pas du tout. De l'horlogerie suisse en plus ?
Ouais, allez, je te dévoile le truc. En fait, les éditions... alors, pas les éditions Kana en tant que telles, mais un partenariat a été initié au Japon entre Hunter x Hunter et les montres Tic Tac.
D'accord.
Donc c'est toute une série de montres, il y a 8 modèles de base, à l'effigie de Gon, Kirua, Kurapika, Leolio, Kuroro, Hisoka, Feitan et Kurotopi, et Korutopi. Donc des personnages bien connus des fans de Hunter x Hunter qui se voient décliner en version montre. La montre Gon est un bracelet cuir avec un cadran avec des petites couleurs vertes à l'intérieur, mais c'est des montres qui sont super soignées. C'est pas des montres gadget pour enfants, ça fait de la belle montre. Comme peut le témoigner mon cher ami Anthony, je vous montre quelques images.
Ah oui, d'accord, donc on respecte une espèce de charte couleur des personnages. Quand tu m'as annoncé des montres suisses qui font du manga, j'étais en train de me dire, mais en fait, il va y avoir un imprimé sur le cadran, ça va être hideux.
Eh ben non, même pas. Alors, il faut savoir que ça s'était déjà fait. Faut savoir qu'au Japon, ça coûte 19 800 yens. Ça fait combien en euros ? Oh, ça fait 167 euros, ça fait quand même des montres d'un assez bon prix. Faut imaginer qu'en France, le temps de faire le trajet, de les récupérer, faudrait compter 250-300 euros pour avoir une montre de ce type-là.
Bah écoute, si on peut avoir un objet, un goodies de Taku, tout en y mettant l'argent et que ça fait pas trop enfant, tant qu'à faire.
Bah là, elles sont plutôt classe. Et puis, comble du vice, alors elles sont prévues pour février 2020, donc on a le temps de mettre un petit peu de côté. Alors, comble du vice, j'ai repris l'expression qui est sur le site de Kana. En achetant un des 8 modèles proposés sur le site de Bandai, puisqu'on peut les acheter sur le site de Bandai, il sera possible de remporter une montre de Netero. Alors, Netero, tu vois qui c'est le personnage ?
Du tout.
C'est le tortue génial de Hunter x Hunter, un petit peu.
D'accord.
Donc le personnage super classe. Et bah, en fait, il y a une montre qui lui est dédiée et qu'il ne sera possible de remporter qu'uniquement via ce concours en fait, qui sera organisé sur le site de Bandai. Donc un truc ultra collector.
Wow.
Bah écoute, moi, je vous laisse aller voir, chers auditeurs, sur le site de Kana. Les montres sont plutôt stylées, ça fait plutôt propre et ça fait ouais, elles sont vraiment super classe.
Puis bah comme moi qui ne connais pas Hunter x Hunter, c'est, si on vous montre la montre comme ça, ben bah, en fait on ne devine pas que c'est pas comme s'il y avait un gros le sigle du manga avec un bon copyright à côté quoi. C'est subtil et c'est plutôt classieux.
Alors par contre, si tu connais pas Hunter x Hunter, c'est une honte. Il va falloir que tu répares ça tout de suite. Allez, un comics qui s'appelle Unseen. À ton avis, de quoi ça parle ?
De quelqu'un qui n'a pas été vu.
Ouais.
Un crime. J'aurais pu dire meurtre.
Ouais.
Mais un crime où le meurtrier n'a pas été vu.
Alors non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, je ne suis même pas bon sur le... Le truc, c'est l'histoire, c'est un comics qui est réalisé pour les aveugles,
oh.
Avec un héros aveugle et par un aveugle.
Mais comment ils font au niveau des cases ? Enfin, les bulles seront...
Alors en fait, oui et non, c'est surtout quelque chose qui va être axé en audio description en fait. Chaque case va être décrite un petit peu comme quand tu vas au cinéma et que tu as la bande-son derrière. Donc du coup, bah, ça reste un comics, puisque ça a été pensé comme un comics, avec le bruit des pages qui se tournent, mais du coup, c'est quelque chose de... qui va pas être matériel.
Ça a été un sacré défi à développer.
Bah ouais, ça a dû être un challenge. Alors il faut savoir que l'auteur a été a eu un diagnostic d'une rétinite pigmentaire, ce qui fait qu'il a perdu totalement la vue à 28 ans. Là, il a 46 ans, il se rappelle des comics qu'il lisait quand il était gamin, et du coup, il a décrété qu'il n'y bah, avait pas de raison qu'il ne puisse pas faire du comics et que ça le manquait. Et voilà, là, je lis une des traductions, c'est « La base de chaque comics est très visuelle, mais nous ne voyons pas les images avec nos yeux, c'est notre cerveau qui les voit. » Et c'est vrai, parce qu'en fait, le cerveau ne fait que filtrer des éléments visuels, et du coup, c'est lui qui fait qu'on trouve quelque chose beau ou pas beau.
On en vient presque à quelque chose de métaphysique, c'est génial.
Presque.
Ça reviendrait presque à vouloir essayer les yeux fermés, du coup.
Ah ben, il faut, bon. Hein, c'est l'occasion hein, de découvrir quelque chose comme ça. Alors, ben voilà, faut... le tome 1 va sortir fin septembre, ben là. Non, le tome 1 est disponible gratuitement sur un site que j'ai perdu. Et le tome 2 arrive, en fait, là, maintenant tout de suite. Et il y en a 10 de prévus au total.
Est-ce que tu peux rappeler la maison d'édition ?
Je ne l'ai pas dit, parce que je l'ai perdu. Je suis nul. Je ne sais plus où c'est pas grave. Je vous retrouverai ça tout à l'heure. Mais c'est, vous cherchez Unseen Comics, vous allez trouver ça. Disparition, puisque Unseen, disparition, c'est nul que... Donc tout le monde a entendu bien entendu que Jacques Chirac, notre ancien président, a été décédé.
Oui.
Il faut savoir qu'il y a également un auteur de BD qui nous a quittés. Il s'agit de Patrick Tandiang, excusez-moi pour la prononciation, qui est décédé le 27 septembre à l'âge de 58 ans. C'était le créateur de la série Le Matin des Sueurs Brûlées, publié aux éditions Delcourt. Et c'était... c'était super classe en termes de dessin. Le gars avait une sacrée... C'était super beau, en fait. Donc, voilà. Ben voilà. Ciao l'artiste, ouais. Comme dirait l'autre. Hop. Et puis, dernier point, en fait, comment dire... Le ministère de la Culture a revu sa copie suite au petit clash concernant le concours pour l'affiche de l'année de la BD en 2020. C'est maintenant un appel à candidature en bonne et due forme qui est mis en place. Et du coup, bah, ce n'est plus cette espèce de concours déguisé qui était qui était complètement préjudiciable en fait aux auteurs qui n'existe plus du coup.
Voilà, ça sert à rien d'évoluer en douce comme ça. Il faut s'avouer, faut marcher au grand jour.
C'est ça, et puis ça permet aussi de défendre un petit peu, de s'investir un petit peu plus dans ce qu'on bat, dans ce pourquoi on se bat en fait. Le ministère de la Culture, c'est défendre la culture, pas l'enfoncer en termes de profit.
Et surtout pas privilégier une culture sur une autre.
Ouais. Là, il y aura un ensemble de dessins déjà réalisés, et du coup, le jury va retenir 10 candidatures, et le lauréat recevra une dotation de 10 000 euros. Les 9 autres candidats, dont les propositions n'auront pas été retenues finalement, auront une dotation de 1 000 euros chacun. Ce qui est déjà quelque chose, il y a du travail de payer. Avant, c'était fais un dessin, puis tu verras si tu es retenu. Et du coup, ça ne marche pas.
Est-ce que tu peux nous rappeler pour quand est prévu les résultats ?
On ne le sait pas pour l'instant. Donc je peux pas.
Très bien. Bon bah, Adjane que pourra alors.
Et ouais. Allez, on va parler un petit peu plus bande dessinée, surtout pour les news. De quoi tu veux ? Tu avais prévu de nous parler de quelque chose en particulier ou pas ?
Oui, tout à fait. Moi, j'avais pour ceux qui s'en souviennent, l'année dernière, je vous ai parlé de mon coup de cœur pour Blame. Cette œuvre mythique de Tsutomu Nihei, qui était aux éditions Glénat, et où j'avais découvert cet enfer piranésien cyberpunk.
Ça y est, il a replacé piranésien.
Oui, on est reparti pour une année. Et vous saurez jamais quand est-ce que je vais le placer. Donc, comme beaucoup d'œuvres, hein, oui. Tout simplement. le manga phare de Tsutomu Nihei a lui aussi droit à son préquel.
Ah.
Et oui, mais si, vous savez, ces pans d'histoire inutiles qui ne remplissent pour la plupart que le rôle de goodies, qui n'ont pour but que de soulager un peu plus le porte-monnaie des fans pigeons irréfléchis. Ah, pléonasme, pardon.
Oui, puis tu t'inclus dans la case, c'est ça ?
Oui, exactement. Mais attends, j'y viens.
Ah, t'y viens, pardon.
Eh ben là, pour le coup, pas du tout. Alors ça n'a rien à voir avec le fait que je sois fan du travail de Nihei, pas du tout. Je vais même vous dire pourquoi après ce rapide résumé. L'histoire de Noise se déroule donc dans le futur, par rapport à nous, et dans le passé, par rapport à Blame. Vraisemblablement...
Donc c'est le retour vers le futur de Blame.
On va dire ça comme ça. Vu les têtes étranges des personnages, de toute façon, ça peut pas être chez nous. Donc le monde est alors régi par une cyber-entité omnisciente qui pourrait être un dérivé du Net. Skynet pour les plus connaisseurs. L'héroïne, Suzono Musubi, est une inspectrice qui enquête sur une mystérieuse affaire de disparition d'enfants en compagnie de son collègue Clotor. Donc un duo d'enquêteurs.
Des
comme
prénoms typiques japonais.
Exact. Bah, Clotor, j'avoue, oui.
Oui, ça fait très japonais.
Tout à fait banal. Mais en cours d'investigation, ils sont attaqués par un groupe se faisant appeler le culte.
Le culte.
Alors pour ceux qui connaissent un petit peu déjà l'univers de Blame et de Nihei, on peut un petit peu imaginer derrière le mot le culte quelque chose qui ressemble vaguement à des Cénobites tout de même.
Un tout petit peu.
CF, la série de films Hellraiser.
Adapté des romans de Clive Barker.
Exact. Quand est-ce qu'ils en font des romans graphiques d'ailleurs ?
Ça existe déjà mon ami.
Pourquoi je les ai pas dans les mains alors ?
C'était un culte mon ami.
Pour le culte, c'est dommage. Ces derniers utilisent un pouvoir appelé le chaos du net, et pas le Shining, pour transformer des humains en monstres. Alors que Suzono se rapproche d'une vérité aussi redoutée qu'espérée, elle est confrontée aux prémices d'une révolution gigantesque qui pourrait bien changer la face du monde tout entier.
Waouh.
Pa-pa-pam.
Tin-tin-tin-tin.
Donc là, tout simplement, il y a plein de choses qui sont au rendez-vous. Pour ceux qui connaissent déjà Nihei, vous allez forcément aimer, puisque du coup vous allez retrouver tout ce que vous avez apprécié dans Blame. Donc les méga structures gigantesques qui vous collent le vertige, encore une fois. Vous allez retrouver ces personnages filiformes qui, on ne sait jamais vraiment s'ils sont humains. En tout cas, ils ont un côté, comment dire, hypnotique, mélancolique, comme Killy, le héros de Blame. Et du coup une histoire dont on a l'impression qu'on ne saisira jamais tous les tenants et les aboutissants, car on n'est qu'un passager, un voyageur en fait, qui est là à l'instant T. On aperçoit cette inspectrice là, mais on se doute bien qu'il se passe plein d'autres choses à plein d'autres endroits, Et donc, votre tâche sera de profiter, en fait, du moment que vous passez avec Musubi, en attendant de dévorer une autre œuvre de Nihei. Ce qui est intéressant, en tout cas, dans ce manga, qui, je précise, est en un seul volume. Donc, petit préquel, quoi.
Blame, c'était pas très long, déjà, c'est une dizaine de tomes, c'est ça ?
Oui, Blame, c'était une dizaine de tomes seulement, oui. Donc, ceux qui sont rassurés, notamment par les petites séries comme moi, c'est parfait. Donc, ce préquel raconte quelques petites choses. Ça permet de saisir quelques trucs qu'il y avait dans Blame, comme les sauvegardes, etc. Mais vous permet pas de saisir l'entièreté non plus du scénario. Ce préquel n'a pas pour but de vous dévoiler tous les tenants et les aboutissants de Blame. Sinon, ça briserait un petit peu le sel de l'aventure.
L'immersion dans Blame, parce que c'est quelque chose d'immersif, extrêmement prenant, en fait.
C'est ça. Blame, c'est pas tellement le manga que vous allez lire dans le bus, comme ça, pour vous occuper entre deux stations. Ce serait plus, justement, une œuvre sur laquelle il faut déprimer. On passe longtemps dessus.
Il y a un côté
contemplatif,
quand même,
etc.,
énorme.
Voilà. Et donc, ce côté contemplatif, on le retrouve complètement dans Noise. Et certes, on le dévore vite, mais avec beaucoup de gourmandise, je dirais.
Puis c'est vraiment impressionnant comme... Alors je ne sais pas s'il a gardé cette espèce de particularité graphique où on avait vraiment l'impression qu'il commence par balancer des taches d'encre, puis après il fait des trucs avec.
Alors justement, c'est quelque chose que je trouvais qui s'était un petit peu perdu dans Aposims, une autre série...
C'était beaucoup plus lumineux, Aposims.
Aposims donnait l'impression d'un côté vraiment très lunaire, parce que c'était très clair, etc. À côté, Noise, on renoue vraiment avec l'ambiance de cyberpunk et de Blame, justement. Certes, un peu moins sale, vu que du coup, ça se passe bien avant les événements de Blame, mais crado quand même, on reste dans du coup, le cahier des charges du cyberpunk.
Blame, Noise, Aposims, des trucs à lire forcément, parce que c'était...
Tu peux rajouter Night of Sidonia et d'autres encore. En tout cas... C'est si du coup je vous parle aujourd'hui de Noise en plus de Blame, c'est tout simplement parce que je pense que le Tsutomu Nihei a beaucoup à nous raconter, il a beaucoup à vous partager en tout cas dans son univers et ce qu'il met de lui dedans est franchement hyper intéressant et voilà, faut s'intéresser, faut être curieux et si vous avez pas envie de vous taper toute la série Blame, prenez ce one shot au moins et vous découvrirez peut-être un auteur qui changera quelque chose dans vos lectures.
Oui, qui a imposé un style très particulier. Hein.
Et plutôt unique, je dois dire. Moi, c'est une lecture vraiment unique que j'ai eue et j'ai jamais retrouvé ce style ailleurs.
C'est parfait.
Donc voilà, il s'agit de Noise, écrit et dessiné par Tsutomu Nihei aux éditions Glénat. Catégorie Seinen.
Merci Anthony.
Mais de rien.
Alors là, j'aimerais bien faire une petite pause musicale. Alors, elle va être assez courte, hein, mais du coup, elle va permettre d'enchaîner sur une BD de manière complètement pas du tout normale. Mais vous allez voir.
Oh.
Attention, on vous laisse avec un... ça va, celle-là, vous pouvez garder les enfants à côté.
Les belles panthères, les poules aiguilles, les vers de terre. Les lions massacrent les jolies gazelles, les chats dépouillent les oiseaux de leurs ailes. Mais de tous les animaux, c'est qui les plus forts et de loin. Mais de tous les animaux, les plus forts c'est nous, c'est les humains. Nous on tue des lions, on tue des loups et on tue des agneaux. Les poules trop fastoches, on les bute par 20 dans leur cageot. On tue des hommes, des femmes, des vieux, des enfants à gogo. On peut tuer tout ce qui bouge, alors c'est qui les plus costauds? Les girafes s'empiffrent de feuillage, les vaches engloutissent des pâturages. Les lapins se bourrent de carottes et de choux, et les pandas se goinfrent de bambou. Mais de tous les animaux, c'est qui les plus forts et de loin. Mais de tous les animaux, les plus forts c'est nous, c'est les humains.
couper les arbres et brûler tous les champs. Nous, si on veut, on peut même faire fondre les glaciers. On peut dégommer la planète, qu'ils arrêtent de se la raconter. Oui, de tous les animaux, c'est qu'il est plus fort et de loin. Oui, de tous les animaux, les plus forts, c'est nous, c'est les humains.
J'y aiderai. Les rois des animaux. Une petite chansonnette qui nous dit que les plus forts, c'est nous, c'est les humains. Alors, apparemment, c'est pas tout à fait le cas, puisque sorti aux éditions Jungle, Chaton contre Dinosaure de Davy Mourier, Stan Silas et Valérie Sciro. Oui.
Attends, mais quelle transition de malade!
Eh ouais,
c'était magnifique.
Parce que les plus forts, c'est pas les humains, c'est les dinosaures, on est d'accord, hein. Tous les geeks seront d'accord avec nous. Hein,
si on fait un bras de fer avec un tyrannosaure, je suis pas sûr qu'on perde. Hein.
Ah ouais, le bras de fer, j'avoue, c'est chaud. C'est chaud. Ton avis, c'est quoi, Garance? Les dinosaures les plus forts, les chatons ou les humains? Dans ton micro, parle. Je t'écoute, ma chérie.
Les chats.
C'est les chats les plus forts. Alors, oui. Toi, tu as beaucoup aimé Chaton contre dinosaure?
Bien sûr que oui.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter de quoi ça parle? Alors, joue pas avec ta mousse de micro, ça fait du bruit, ma chérie. Tu tiens ton micro comme ça, hop. Explique-nous pourquoi Chaton contre dinosaure, c'est bien. Mais de quoi ça parle, si tu peux.
Ça parle de des chats magiques.
Ouais. Mais ils sont magiques comment? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont forts en bagarre? Ils sont forts à faire apparaître des trucs? Alors, on suit un petit garçon, c'est ça? Ou une petite fille?
Plutôt une fille.
C'est plutôt une fille. Et puis, le jour de son anniversaire, elle reçoit un cadeau particulier par son papa. Qu'est-ce qu'elle reçoit à son anniversaire comme cadeau?
Des chats.
Des chats? Alors, le soir, elle fait la fête avec ses copains, et puis le soir, elle va se coucher. Et le lendemain, il n'y a plus personne. Alors, du coup, elle part à la recherche de son papa. Mais sur quoi elle... Donc, ça se passe à Saint-Malo, hein. Et sur quoi elle tombe quand elle va dans la ville?
De plein de dinosaures.
Plein de dinosaures ont envahi Saint-Malo. Truc de dingue, de barge, quoi. Et oui. C'est là qu'elle se rend compte que ces chats sont magiques. Et qu'est-ce qu'ils font, les chats? Garance, non? Qu'est-ce qu'ils font, les chats?
Ce sont des chats ninjas.
Donc, ce sont des ninjas.
Mortels.
Elle est trop fort?
Pourquoi j'y ai pas pensé avant?
Alors c'est vrai que là, quand on prend le bouquin au départ, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fumé, ils ont pris des substances un peu illicites, et puis ils se sont dit tiens, un chaton, dinosaure, on prend du name dropping, on prend des mots, et puis on dit tiens, on va faire un truc avec un synopsis sur chaton et dinosaure. D'ailleurs, ça pourrait justifier Super Caca. Mais et du coup, là, il y a un truc complètement barré, et du coup ça fait quelque chose d'assez fun, d'assez rigolo. Donc ceux qui connaissent Stan Silas retrouveront le trait très coloré et très fluide qui a fait son talent, on va dire, hein. Et du coup on a l'humour barré complètement flingué de Davy Mourier, et puis on a les deux ensemble qui donnent cette espèce de chaton contre dinosaure, hein. Une œuvre, un bouquin qui forcément un peu plus orienté jeunesse un peu comme Super Caca en fait. La cible, c'est les enfants de 7 à 8 ans. Et oui.
Ah oui, mais moi par contre, tu me dis c'est spécialement pour les enfants, mais je suis désolé, j'ai très envie de le lire. Quand je regarde à peine l'intérieur des pages, et moi qui suis un adorateur incontesté des vidéos YouTube de chats,
eh ben ça marche.
Je regrette, je vais foncer sur ce bouquin.
Mais il faut. Parce que c'est vraiment fun. Alors, pour ceux qui connaissent déjà Saint-Malo, on retrouve bien la ville. C'est ça qui est rigolo. C'est que, après, bon, c'est pas compliqué de faire une ville avec des remparts. Moi qui ne sais absolument pas dessiner un bonhomme. Mais du coup, on a bien l'ambiance marine. Chose qu'on retrouvait déjà dans Bigouden, du même Stan Silas. On a l'impression que la Bretagne, ça vous gagne et ça l'a gagné. Et du coup, on a un truc assez rigolo. On sent l'héritage de Dragon Ball. On sent... plein de petites influences comme ça. Je vous laisse découvrir, c'est franchement bien sympa. C'est plein de gags. Alors, c'est pas une BD à prendre au sérieux, hein, bien entendu. C'est pas une BD d'horreur non plus. Mais c'est un petit coup de frayeur pour les enfants et ça passe super bien. Je redonne les infos.
Bah, outre la mignonnerie en fait des petits chats, je trouve ça vachement intéressant que ça prenne place dans une ville comme Saint-Malo, parce que du coup si tout le monde ne la reconnaîtra pas, ce qui est intéressant c'est de pouvoir avoir un visuel quand même qui est vachement chouette au niveau du décor, sans que du coup ça passe trop partout et on sort un petit peu du énième Paris, etc. Enfin, au niveau de l'esthétique de l'architecture française, bah on change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et du coup, ça, c'est cool. Ça peut permettre de voir des nouveaux décors, une autre façon de...
Et puis, je dirais que c'est peut-être aussi un peu le talent de Stan Silas, c'est d'arriver à rendre certaines choses connues de manière... son dessin n'est pas un dessin qui est hyper détaillé. Mais du coup, première case, on reconnaît tout de suite de quoi ça parle. Et c'est ça qui est franchement cool.
Ouais.
Tu reconnais, tu reconnais la ville direct.
Ben oui, pour y être allé il y a seulement 2 ans, oui.
C'est vrai que tu as une bonne mémoire. Et du coup, ma chérie, ma petite Garance, est-ce que tu souhaitais dire aux auditeurs si c'était bien ou si c'était pas bien ? T'as bien aimé ou pas ça ?
Ben oui.
Et si tu dirais à nos auditeurs de le lire ou de l'acheter ?
Oui.
Et pourquoi c'est bien ? Est-ce que tu peux dire pourquoi c'est bien ?
Parce qu'il y a des chats magiques.
Alors, si vous aimez les chats magiques, je rappelle les références. Chaton contre dinosaures, c'est aux éditions Jungle. C'est de Davy Mourier et Stan Silas. Et c'est également de Valérie Sierrault, qui, je suis désolé, j'ai pas regardé, qui fait les couleurs. Habituellement, je crois que c'est Stan Silas qui les faisait lui-même. Je suis même pas sûr. Enfin, bref.
Elles sont jolies quand même, les couleurs, moi j'aime bien.
C'est flashy, ça pep un peu.
Ouais.
Je sais pas, ça donne la patate. Oui, voilà, il y a un T-Rex quoi.
Non, puis les dinosaures sont chouettes, ouais.
Ouais, il y a un côté cool et rigolo là-dedans. C'est plutôt. Enfin, moi j'aime bien. Bref. Bon, alors, vous avez vu les transitions assez phénoménales. J'y aiderai, les rois des animaux. On parle du roi des dinosaures avec les T-Rex, chatons contre dinosaures. On peut dire que peut-être les rois des animaux, ce serait peut-être plus les chats, tellement ils dominent Internet maintenant. Est-ce que j'y aiderai fait de la BD ? Eh bien, oui. Maintenant, elle fait de la BD grâce à la collection Une case en moins des éditions Delcourt, une collection dirigée par Davy Mourier. T'as vu la transition de fou ?
Ah non, mais là, ce soir, t'as pété ton score de...
Ah, mais je suis transitionno-malade. Il s'agit d'un bouquin, collection Une case en moins. Si vous avez l'occasion d'y aller, ça change de la BD traditionnelle. Ça donne des petites pépites, des petits trucs un petit peu fun. Le but, je le rappelle, de cette collection était d'allier quelqu'un qui n'est pas du milieu de la BD avec quelqu'un du milieu de la BD pour faire un album. Là, la boîte de petits pois, eh bien, c'est l'occasion d'allier J. Edré et Oli R. Sur une bande dessinée qui va parler de...
Ça va parler de petits pois ?
Oui. Avec le titre, ça va, hein, tu t'es pas foulé.
Non, mais bah, on sait jamais. Je crois que ça cache une méta inconcevable.
Non, c'est pas une méta inconcevable. En fait, c'est une BD qui va raconter l'histoire, la jeunesse de J. Edré. J. Edré qui est originaire d'une famille lituanienne, qui a grandi en pleine...
Guerre froide ?
Non, bah, oui.
Bah, elle est pas si vieille, pas si.
Que ça. Non, mais surtout en plein communisme de l'URSS, et qui raconte avec toute la naïveté et l'incisivité qu'on lui connaît la jeunesse d'une petite fille dans un pays où il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de personnes qui vivent dans la rue, mais il y a des gens qui sont quand même très pauvres et qui te racontent un pays où pour elle, ce bout d'une petite fille, ça lui va très bien. Alors, ce qui est génial, c'est que déjà, c'est super bien raconté. En plus, c'est allié à un dessin qui est entièrement fait au crayon de couleur. Olière a su retranscrire le côté un peu cahier fait à la main. C'est comme si c'était la petite fille elle-même qui dessinait en fait ses livres. Et c'est super intéressant. En termes de dessin, ça marche super bien.
Alors déjà ça court pas les rues pour commencer, donc ça a déjà ça d'intéressant. Et puis dès la couverture, le titre écrit en fait comme si ça avait été bien appuyé à vos crayons de bois. Enfin, je trouve ça trop mignon en fait. Et pour autant, le dessin, il n'en est pas simpliste.
Non, c'est ce qu'on remarquait tout à l'heure quand on préparait l'émission. C'est que ça reste un dessin qui est quand même franchement détaillé, qui garde de bonnes proportions, qui... Je t'en prie, continue. Hein.
Comme tu dis, qui garde de bonnes proportions. On a suffisamment de détails pour partager les sentiments, des jolies couleurs qui indiquent bien l'ambiance, tout en restant suffisamment simple et accessible, en fait. C'est ça qui est important. Et je pense que ouais, la transmission d'une émotion, c'est le plus important. Et là, j'avoue que ça marche très très bien.
Et puis là, tu parles de transmission d'émotion et c'est encore plus... parlant, puisqu'effectivement, on se met dans l'intellect d'une jeune fille, d'une petite fille qui a vécu ça toute sa vie et qui trouve ça complètement normal et qui te raconte certaines petites choses que nous, occidentaux et puis personnes ayant vécu dans un pays un peu plus capitaliste quand même, sans être dans l'excès, y a des choses qu'on trouve complètement pas aberrantes, mais... dont on n'a pas eu l'habitude. Par exemple, un enfant qui a réussi à avoir une gomme parce qu'il y a quelqu'un qui a été dans un pays un peu plus riche, et ben il partage sa gomme avec d'autres enfants.
Ça, c'est chou, quand même.
Et du coup, quand on suit Jiedré, qui finit par arriver quand même à Paris, en France, qui commence à être scolarisée, elle, quand elle veut partager sa gomme, tout le monde se rend compte que... Enfin, elle se rend compte que tout le monde a une gomme et que personne veut surtout partager sa gomme. Donc du coup, elle a perdu un petit peu cette chaleur, ce côté humain qu'elle pouvait trouver dans le communisme de l'époque. Communisme où, par exemple, quand il y avait un chewing-gum, les chewing-gums, il n'y en avait pas beaucoup. Et les enfants, ils se mettaient en rond et puis ils mâchaient à tour de rôle le chewing-gum pendant une minute.
Ew.
Ouais, mais tu te partages un chewing-gum. Parce que c'est une denrée rare. Et du coup, l'histoire de cette boîte de petits pois, c'est l'histoire de... ça parle de l'enfance de Jiedré, mais c'est surtout cette boîte de petits pois que la maman de Jiedré va trouver quand elle va découvrir en fait son beau-père manger cette boîte de petits pois, alors que c'est un mets un petit peu recherché. C'est quelque chose qu'on garde pour les grandes occasions. Et son passage, qui est un peu la note finale en fait du livre, où elle débarque dans un hypermarché et elle découvre que les petits pois, en fait, il y en a partout chez nous et que y a même des gens qui n'ont pas les moyens d'en acheter. Et du coup, c'est ce contraste en fait qui est extrêmement intéressant, qui est extrêmement intelligent et qui fait que j'ai adoré ce bouquin. Je sais pas quoi dire de plus. Le bouquin passe extrêmement bien. Il n'y a pas de jugement. C'est juste une expérience, c'est une petite fille qui a vécu le communisme et qui te dit que elle l'a bien vécu au final.
C'est marrant que tu dises qu'il n'y a pas de jugement, parce que justement je me faisais la réflexion, je me disais mais comment ça a pu ne pas faire naître du mépris pour notre société occidentale moderne de voir toute cette richesse qui n'est pas partagée.
Ça c'est notre regard qu'ils l'avons en fait en lisant la BD. On se dit mais c'est bizarre comme mode de vie, c'est bizarre en fait et c'est ça que Jiedré met en avant en fait dans le post-scriptum, puisqu'elle raconte en fait la première fois où elle a été invitée à jouer en concert à la fête de l'UMA et qu'elle découvre en fait tout un tas de personnes qui essayent de mettre en avant ce qu'elle a quitté et ce que sa maman a tout fait pour quitter parce qu'elle n'en pouvait plus. Et du coup, les petits conflits aussi que ça peut être... parce que sa maman, Jiedré, a l'air de ne pas avoir la langue dans sa poche. Elle va voir, en fait, Jiedré, juste après le concert, elle dit « Les gens, là, ils n'ont pas compris ce que c'était le communisme, je vais aller leur parler. » Du coup, Jiedré se débrouille pour mettre sa maman dans un taxi pour qu'elle rentre chez elle et qu'elle n'ait pas pété un scandale parce que c'est pas top.
Oui.
Et du coup, c'est vraiment... Le post-scriptum complète un petit peu c'est cette espèce de destin en fait du coup qui a l'air d'avoir été dessiné par Jiedré elle-même. Il y a une différence graphique assez notée entre le post-scriptum et puis le reste de l'album. Mais du coup sur cette fin de l'enfance, cette fin de la magie en fait de la jeunesse où tu te rends pas compte qu'il y a des choses qui sont super tristes en fait parce qu'elles sont juste normales.
C'est ça, lorsque du coup ton monde il devient plus grand et tu te rends compte de ce qui peut se faire ailleurs et que ailleurs l'herbe elle est plus verte.
Si tu vois pas ailleurs, ton herbe elle est déjà verte.
T'as de l'herbe déjà.
T'as de l'herbe déjà.
Contente-toi-en.
La boîte de petits pois de J. Edré et Oli R. Aux éditions Delcourt, collection Une case en moins. C'est vraiment une petite pépite. Je redis mon amour pour cette collection Une case en moins, parce que ça fait des BD qui sont différentes. C'est toi qui avais fait White Spirit de Dedo.
Oui, tout à fait.
Qui était encore autre chose, quelque chose de très différent.
Ah, quelque chose de très différent et tout aussi personnel comme Guy Drey pour cette BD-là. Tout aussi personnel aussi, c'est-à-dire qu'on retrouvait un peu le style à la fois d'humour et d'univers en fait, propre à Dedo.
Et c'est ça qui rend cette collection parfaite, c'est que ce sont des gens qui ont su transmettre des univers dans la BD. Là, on retrouve tout à fait l'univers de J. Edré avec cette espèce de candeur et d'acidité, en fait, d'incisivité qui font que...
Et puis, il n'y a pas que... Enfin, il y a plein de gens qui ont des histoires superbes à raconter, mais là, s'ils font pas... Ils font pas de BD ou de comics pour pouvoir les mettre en image. Donc, autant leur donner une chance grâce à ça. Je trouve ça chouette, moi.
Puis, on se le cache pas que... Vu la qualité des dessins de Post-Scriptum, il fallait bien effectivement qu'il y ait quelqu'un pour l'aider à dessiner. Alors peut-être qu'il dessine très bien, hein, mais pas dans le Post-Scriptum.
Moi j'ai une petite question pour toi, pour rebondir là-dessus. Parce que du coup, tu parles de l'enfance de Guy Drey, enfance qui était quand même vachement différente de l'époque à laquelle on vit aujourd'hui.
Oui.
Et je me demandais, est-ce que du coup c'est une lecture que tu conseillerais à n'importe qui dans le cadre bientôt de l'anniversaire de la Convention internationale des droits des enfants ? Parce qu'elle a lieu quand même au mois de novembre, et au mois de novembre ce sera les 30 ans. De la Convention des droits des enfants.
Eh bien, je dirais que c'est pas le sujet, en fait. Parce que vraiment, on te parle pas juste de l'enfance, en fait. C'est une enfance dans un cadre historique très spécifique. Et ouais, ça peut montrer aussi comment vivaient certains enfants et comment vivent peut-être encore certains enfants dans des pays avec des régimes politiques particuliers. Moi, je porte pas de jugement, hein, parce que ça peut être une très très belle histoire, le communisme, comme le capitalisme, mais tout dépend du cadre dans lequel ça se fait et des personnes qui sont capables de l'appréhender.
Très bien.
Voilà.
Je suis satisfait de votre réponse, monsieur.
Allez, on va refaire une petite pause musicale. Il est 19h36, vous êtes toujours sur le 101.5 de Radio G. C'est toujours la case de Seb, en compagnie de Garance et Anthony. Et puis on va faire une petite pause musicale. Alors là, si vous pouvez éloigner vos enfants du poste, c'est toujours une chanson de J. Edré. C'est une chanson qui va avoir un rapport avec ma prochaine chronique. Mais qui, si vous voulez pas avoir expliqué certaines choses à vos enfants, bah éloignez-les. Allez, à tout à l'heure.
Qui enlèvent leurs culottes devant leur gynéco.
Eh bien, toutes des putes de Jiedré. Alors, si, voilà, si vous n'avez pas éloigné vos enfants, mais je vous avais prévenu. Moi, j'ai la mienne qui me regarde bizarrement, qui, je pense, va me poser des questions en rentrant à la maison. Ça va, Garance? Non? Elle te plaisait pas, la chanson? D'accord, elle ne lui plaisait pas. Elle oscille la tête en faisant non, non. Et toi, elle te plaisait, Anthony, la chanson?
Non.
Non, t'aimes pas. Vous allez me dire, mais c'est un peu vulgaire, ça, Seb, pour passer ça à 19h40, pendant que les gens ils sont à table avec leurs enfants à écouter la meilleure émission consacrée au 9e art. Eh ben oui, mais elle est suffisamment parlante par rapport à la BD dont je vais vous parler juste après, à savoir celle-ci maintenant, qui s'appelle « Putain de vie ». Aux éditions La Boîte à Bulles en collaboration avec Médecins du Monde. C'est une BD de Muriel Douru et c'est une BD qui a été préfacée par Ovidie. Ovidie qui est ancienne actrice X, journaliste, qui écrit plein de choses en rapport avec le milieu du sexe et qui est vachement, vachement intéressante. Putain de vie, qui est sous-titré Itinéraire de travailleuse du sexe, qui est une BD qui va dresser un constat de prostituée. Leurs différents parcours, leurs différentes origines, d'où elles viennent, pourquoi elles sont là, comment elles en sont venues. Et je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, on a tous des préjugés, je pense, sur la prostitution. On a tous des préjugés sur qui sont ces femmes qui acceptent de vendre leur corps, en fait, juste pour gagner de l'argent. Alors peut-être pour vivre, mais je pense qu'on se pose pas la question au départ. Et du coup, c'est un constat qui est quand même assez, assez impressionnant, puisque le bouquin est assez épais, et j'ai même pas regardé le nombre de pages, je m'en excuse.
Il y a près de le lire très très vite, tellement il était...
Non, c'est qu'il y a près de 200 pages, en fait, et à chaque fois, ce sont plusieurs histoires, plusieurs... c'est les chemins de vie, en fait. Comment les gens, comment ces femmes en sont venues à se prostituer? Est-ce qu'elles ont fait ça volontairement? Est-ce que elles ont été forcées? Est-ce que c'est devenu un choix? Et tous ces parcours-là, en fait, sont extrêmement intéressants parce que on tombe pas dans la misère. Alors effectivement, il y a beaucoup de travailleuses du sexe d'origine étrangère qui sont venus en France pour avoir une meilleure vie et qui, victimes des passeurs, sont obligés de rembourser en fait leur passage en vendant leur corps. Mais du coup, on a quelque chose de vraiment très très intéressant. C'est un vrai témoignage. Alors, faut savoir que Muriel Douru a travaillé avec l'association Paloma, qui est comment expliquer ça? Ils font ce qu'ils appellent des maraudes, en fait. Elles vont rencontrer des travailleuses du sexe et leur porter un café, discuter. Et du coup, c'est des rencontres, c'est des gens qui ont eu des parcours, qui ont des choses à dire. Et c'est vraiment, vraiment super intéressant. Et moi, j'ai vraiment adoré, en fait, ce bouquin parce qu'il y a... Moi, j'étais au moins pétri autant d'a priori que n'importe qui en disant « Bah ouais, faudrait peut-être qu'elle se sorte les doigts, enfin, façon de parler. »
Oh my God.
Ouais, non, je sais, elle n'est pas propre, ma blague, mais on choisit, en fait, ou pas d'être... Enfin, que pour moi, c'était pas un choix, ce genre de métier.
Uh-huh.
Alors qu'en fait, si, pour beaucoup, c'est un choix. C'est une volonté d'essayer de se sortir de quelque chose. Elles sont parfois victimes de ça. Il n'y a pas de stéréotype, un petit peu comme quelqu'un qui bosse à l'usine. Il y en a qui l'ont choisi parce que ça leur va très bien, il y en a qui font ça parce qu'ils n'ont pas le choix, et c'est tous ces chemins de vie, en fait, qui sont extrêmement intéressants. Graphiquement, j'avoue que j'ai pas été forcément séduit. On est sur un dessin qui va faire la part belle au reportage et au témoignage, et du coup c'est ça qui est extrêmement qui aide à se distancier un petit peu du sujet, pour éviter que ça devienne quelque chose de très larmoyant. C'est pas non plus voyeur. On n'est pas là, on parle pas de la prostitution juste pour montrer des scènes de sexe. Il y a des passages qui sont un petit peu à l'image de ça, où on voit par exemple une femme qui tombe à travers, enfin une femme. Sur cette histoire-là, ce n'est peut-être pas tout à fait le cas, au moins dans sa tête, qui tombe à travers une espèce de liquide rouge qu'on pourrait comparer à du sang et qui fait suite à une révélation, en fait, qui fait suite à quelque chose qu'on lui explique. Et il y a quelque chose de très graphique là-dedans. Enfin, ça symbolise bien la chute, en fait.
Oui. Oui, bah c'est.
Je
vois très bien. C'est des espèces de torpeurs comme ça que j'ai déjà pu, comment dire, expérimenter dans d'autres BD réalistes de ce genre. Quand vu du coup comment tu en parles, ça me fait poser cette question. Ce sont des mises en image de véritable vie.
Oui.
Donc,
ce sont des vrais témoignages en fait suite aux rencontres. Alors j'imagine que il y a une façon un petit peu de d'interprétation, parce que elle retranscrit en fait ce qu'elle a vu et ce qu'elle a entendu, mais je suis pas persuadé qu'elle en rajoute pour le côté larmoyant est pas présent en fait.
Ouais.
C'est des parcours, c'est pas une biographie, mais c'est des chemins, c'est des constats sur des gens qui sont partis d'un point A à un point B. Et qui sont à un point Z là actuellement, et du coup c'est hyper intéressant de voir que bah y a pas de chemin, y a pas un destin qui t'oriente vers ce type de métier, et du coup c'est
peut-être une forme de justice rendue du coup pour ces femmes, parce que du coup quand elles sont aperçues, elles sont forcément victimes, comme tu as dit tout à l'heure, de préjugés, etc. Y a pas que les gens qui en parlent, y a aussi les gens qui les voient, d'autres qui les achètent. Et je pense que ouais, ça peut être une BD qui peut être intéressant à lire, parce que, ne serait-ce que pour rendre un petit peu justice à ces femmes qui ont pas toujours eu le choix. Ouais.
Et c'est ça qui est, je dirais que l'intelligence en plus de cet album, c'est d'avoir confié la préface à Ovidie, qui elle-même s'est posée la question de la pertinence en fait de cette préface et de ce livre, avant de comprendre qu'en fait le but était de donner la parole, pas de la confisquer aux travailleurs et travailleuses du sexe, puisque effectivement ça ne parle que de prostituées, mais le travail du sexe est quelque chose en règle générale de très mal vu, et avec toutes les complications que ça peut poser. J'imagine que quand tu veux louer un appartement, puis que tu dis je suis prostituée ou je suis acteur porno, il y a peu de chances en fait qu'on te dise oui bien sûr, vous signez là, la caution elle est là. Il y a toujours un recul, un mépris qui est fait vis-à-vis de ces métiers là et du coup le but du bouquin c'est de casser un petit peu ça, puis de se rendre compte que avant tout c'est des humains qui ont choisi d'utiliser leur corps pour vivre au lieu de vivre de leur corps.
Oh.
Non mais enfin voilà, c'est...
Non mais c'est profond ce que tu dis.
Merci. Enfin voilà, Putain de vie de Muriel Dourru aux éditions de la Boîte à Bulles, itinéraire de travailleuse du sexe, c'est vraiment sympa. On n'est pas obligé de lire d'une traite, hein. Il y a beaucoup de témoignages, ça peut se picorer, prendre un petit témoignage une fois de temps en temps. J'avoue que le premier témoignage pose un petit peu les bases, puisque c'est quelque chose quand même d'assez plombant, mais il y a de tout, il y a des choses qui sont un peu plus joyeuses, il y a des choses un peu plus tristes. Habituellement, je râle un petit peu parce que les cahiers en fin de bouquin sont un peu plombants et lourds. Là, on a un petit cahier qui est pas très épais et qui permet de compléter un petit peu en fait les expériences, parler de l'association Paloma en tant que telle. Et c'est super intéressant de découvrir qu'en fait il y a des gens qui luttent pour que les travailleurs et travailleuses du sexe puissent vivre correctement de leur métier, parce que mine de rien, ça reste un métier. Et que là, ça n'engage que moi. Si c'était peut-être un petit peu mieux encadré, il y aurait moins de misère là-dedans.
C'est tout, oui.
Voilà.
Comme tu l'as dit, de toute façon, c'est, la BD, elle est encadrée par un truc de médecin, je crois que tu as dit tout à l'heure.
Médecins du Monde, l'association Paloma, qui vont au contact en fait, des prostituées pour apporter un peu de confort, un peu de soutien aussi, des fois. J'imagine que faire le tapin par 5 degrés dehors, c'est pas forcément super agréable. Alors quand t'as des gens qui viennent en plein milieu de la nuit te filer un café, un bout de brioche et puis discuter avec toi 5 minutes, ça aide un peu, je pense.
Ouais.
Et puis mais on apprend des trucs, hein. Tu vois, moi j'étais toujours persuadé qu'en fait la prostitution n'était pas légale en tant que telle. Si, mais t'as juste pas le droit d'être client visiblement en France depuis 2016.
Donc c'est une espèce de justice à deux niveaux, quoi.
Voilà, c'est comme le cannabis, hein. T'as pas le droit d'en avoir, mais t'as le droit d'en consommer. Non, c'est l'inverse, t'as pas le droit d'en consommer, mais t'as le droit.
Alors, très exactement, le cannabis, en fait, t'as le droit d'en faire pousser chez toi, mais t'as pas le droit de le récolter.
D'accord. Donc, si c'est juste dans une jardinière pour faire joli.
Pardon, j'ai pas compris.
Si c'est juste dans une jardinière pour faire joli, ça passe.
C'est exact. Si t'as des graines chez toi pour juste les planter et les mettre dans une jardinière, ça passe. Après, si ta jardinière est dehors, t'as plus qu'à espérer qu'il y a personne qui vienne la piquer.
Ouais, mais du coup, c'est lui qui serait dans l'illégalité parce que c'est lui qui récolte.
En l'occurrence, oui. Mais du coup, tu pourrais te faire attaquer pour recel quand même. Bref, on va pas parler de justice tout de suite.
Ça, c'est Xavier qui fait partie de Radio Nippon, qui est passé nous faire un petit coucou. Bon, on lui fait
coucou,
un coucou.
Coucou, Seb.
Qu'est-ce qu'on fait? Tu voulais un petit bout de Steven. Oui.
Si tu me permets juste une petite précision, parce que du coup tu parlais d'une BD sur les prostituées. Je sais que j'ai eu l'occasion de lire une autre BD qui parlait un petit peu de ça. Oui. Alors la BD s'appelait Le Client, très exactement, et ça racontait l'histoire d'un homme qui était tombé amoureux d'une prostituée espagnole dans une maison close. Et c'est vrai que quand t'abordes toute cette histoire-là, toute cette partie-là, c'est quand même assez plombant, très vite assez compliqué. Alors la BD dont je parle, moi, a l'air beaucoup moins dramatique et c'est un peu plus romancé, donc c'est pas forcément donner la parole aux personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Mais c'est sûr que c'est un sujet qui est un peu plombant, qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui parfois peut décontenancer un peu ou peut être agréable à aller chercher quand on a trop l'habitude de lire des choses classiques, on va dire.
Ah, et puis ça nous sort de notre zone de confort, en fait. Parce que c'est clairement des choses qu'on croit connaître et qu'en fait, on ne connaît pas du tout. J'imagine que même les clients, en fait, de prostituées n'imaginent pas, et puis ils n'ont surtout pas envie de savoir la vie qu'elles ont pu avoir avant. Hein.
Voilà. Donc on a presque envie de dire aux gens, ne leur dites pas qu'il faut qu'elles se sortent les doigts, mais sortez plutôt les vôtres et affrontez la réalité.
Je m'en excuse, mon à propos était mauvais. On se fait une petite pause musicale très très rapide.
Oui.
Avec
Steven Universe.
Et la chanson
Here We Are in the Future.
C'est Happily Ever After. Son
merde.
Que...
Here we are in the future. Here we are in the future and it's bright. Nothing to fear, no one to fight. I can't believe we've come so far. Happily ever after, here we are. Once upon a time, I thought I'd always be in my mother's shadow. Answering for her crimes, I thought I'd always be in an endless battle. Till I began to hone a power all my own that I could feel growing stronger every day. And now I saved the world, not just that, the whole galaxy saved. We did it.
Here we are in the future.
Hey, Pearl. Hey, Dad.
Hey, Stewball.
Steven, I'm learning to play the bass.
I keep telling her it's bass.
Excuse me, B-A-S-S spells bass.
You're the boss.
Heck yes, I am. Once upon a time, I only lived to be a pink diamond service. Till the day the two of us snuck down to be on this planet's surface. We became a fantasy. And I was sure she set me free. But in the end, I guess I never left her side. And after love and loss and all the tears that I cried, I find that here we are in the future.
Hey, buddy. I'm heading into town.
See you at the concert tonight.
Wouldn't miss it for the world. Here we are.
I saved you a seat.
Thanks, Garnet. Hey, guys, what'd I miss?
You're just in time for my favorite part of the story.
Once upon a time, a sapphire came to Earth with a ruby soldier. Sapphire's deadly fate was set until the ruby rushed into older. Suddenly they were fusing. Beautiful, strange, confusing.
Steven Universe, The Movie. Une chanson extraite du film.
Oui, exact.
Ça fait bizarre, j'ai mis le son trop fort et du coup je m'entendais dans mon micro. Ça fait très très bizarre. J'ai une sorte de voix divine dans le studio. Bref, cette expérience transcosmique terminée, vous êtes de retour sur le 101.5 de la case de Seb, toujours sur Radio G, non, le 101.5 de Radio G, toujours la case de Seb. Dans quelques instants, ce sera, alors, j'allais dire Ben part en live, mais non, c'est plus ça, c'est ça part en live. Ça, c'est parce qu'il a été traumatisé, en fait, par le film avec base de clowns, donc il va ne parler que de musique avec des clowns. Et c'est qu'il a embauché du monde. Si tu les traites comme ça, ils vont pas rester longtemps. Hein. Alors, je sais plus ce que je voulais dire, mais on part en bêtise. T'es quoi ?
Porky ?
Porky ? Non, pas encore, Porky. Dans quelques instants, il est que 55, mon cher ami. on a le temps de parler du petit package qu'on a reçu. On a reçu un petit paquet des éditions de La Gouttière. Je vous en avais déjà parlé il y a de ça un petit moment. C'était les crocs. Je sais pas si ça vous parle, les crocs de Léa Mazé aux éditions de La Gouttière.
Du tout.
C'est super bien. C'est l'histoire de deux enfants qui sont les enfants de croque-morts et du coup qui passent leur temps à jouer en fait dans les cimetières jusqu'à ce qu'ils découvrent des inscriptions un petit peu étranges sur le côté d'une tombe et puis ils vont commencer à enquêter pour essayer de comprendre ce que c'est. Alors là, la fin du premier tome était assez intrigante. On finissait sur un petit cliffhanger assez badass. Et du coup, moi, je suis super content en fait de voir le tome 2 parce que j'avais envie de voir la suite. Ce sera fait en 3 tomes. Ben, je crois que ça est en train d'attendre à l'entrée. Tome 2, Oiseau de Malheur, qui sort là tout juste, hein, du coup, je vais vous dire la date, je pense que je vais l'avoir, mais allez-y, c'est trop trop bien, ça sort le 27 septembre, donc c'est tout neuf, je le chroniquerai un peu plus en détail, mais du coup, le tome 2 des Crocs, le tome 1 s'appelait Tuer le Temps, et le tome 2 s'appelle Oiseau de Malheur, un trait graphique assez particulier et vachement sympa, allez-y, c'est fort. Un truc que j'ai beaucoup plus de mal mais qui marche à fond c'est Les Super de Frédéric Mauponnet et Dawid, toujours aux éditions de La Gouttière, une histoire d'enfant avec des super héros, avec des super pouvoirs, pardon si je me raconte pas de bêtises, mais allez-y, c'est top. Ben, je chargerai ma fille de le lire et puis de nous dire si elle a trouvé ça bien, parce que du coup moi j'ai pas lu ça, c'est le tome 5 et j'ai pas lu les premiers.
Ah bah oui, bah là, au bout de 5 tomes, je pense qu'il va nous manquer pas mal de clés de compréhension.
Mais ils sont là, regarde. Tu regardes les jaquettes et puis t'apprends.
Ah.
Et puis je voulais parler aussi d'un dernier petit truc, qui est un truc un peu à part, qui est sorti aux éditions Delcourt, aux éditions Dupuis, pardon. Je raconte des bêtises. Il s'agit de Largo Winch, Introduction à la finance. Un bouquin qui a été écrit par Olivier Bossard, qui est le directeur exécutif du MSC Finance. Si je ne raconte pas de bêtises. Oui, c'est ça. Il est directeur exécutif du MSC Finance d'HEC Paris, donc une école qui enseigne la finance. Et du coup, par l'intermédiaire du milliardaire Largo Winch, il va nous initier à la régulation financière, la finance d'entreprise, qu'est-ce qu'un krach boursier, tous les projets des marchés financiers, enfin un truc qui est assez... assez particulier, mais ça permet de s'introduire à la finance de manière un peu plus ludique. Oui, très très vite.
Dans le même style d'idée, tu avais Economics qui existait aussi, qui est une BD pour justement qui développe beaucoup sur tout ce qui est économie.
Ouais.
Et donc, du coup, un petit peu sur la finance, certes, mais sur tout ce qui est économie politique, économique et ainsi de suite, dans le même style d'idée.
C'est des bonnes idées, des bons chemins de traverse.
C'est ça.
That's all, folks. 19h58 et 45 secondes, il est l'heure pour nous de nous quitter. On va vous laisser avec Sa part en live. Nous avons Ben et Sa qui sont présents. et du coup, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Surtout, pensez à lire, ça vous instruit et c'est déjà pas mal.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Oh. juste une...
Oh, mais vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Radio G 101.5 FM.